Fournisseur auprès des particuliers et entreprises du bâtiment, Réo se veut le partenaire d'un habitat responsable. Fort de solutions innovantes et de son statut de leader, Réo intervient sur les chantiers d'aujourd'hui avec le souci des enjeux de demain, notamment le critère écologique au cœur de chacun de ses projets. Dans chaque épisode de ce podcast, les experts Réo feront le point pour vous sur les actualités inhérentes à la construction ou la rénovation de l'habitat. Construire ou rénover une habitation implique de multiples questions, et notamment celles concernant les installations d'hydrodistribution, qui englobent celles pour le chauffage, l'eau potable et pour l'eau chaude sanitaire. Quel type de matériaux le marché offre-t-il à l'heure actuelle? Quelles sont leurs caractéristiques propres? Quelles certifications? Que vous soyez particulier ou installateur professionnel, Fabien Kieffer, expert Réo, vous dit presque tout sur les matériaux classiques ou de synthèse, de leur conception à leur mise en œuvre en passant par la réglementation.
Bonjour Fabien. Le marché de la plomberie propose aujourd'hui plusieurs types de matériaux pour la réalisation des travaux d'hydrodistribution qui ont chacun leur spécificité. Pourriez-vous nous faire un état des lieux des solutions existantes?
Bonjour. Effectivement, votre question est très pertinente. Pour réaliser une installation en hydrodistribution, comme par exemple un raccordement d'appareils sanitaires, ou un raccordement de radiateur, plusieurs matériaux sont disponibles sur le marché. Il en existe de nombreux, mais aujourd'hui je vais rester sur les quatre principaux. Les quatre principaux sont le cuivre, le PER, le multicouche et l'acier électrozingué. Le premier est le cuivre. Le cuivre est un matériau historique utilisé en plomberie. Il est résistant et esthétique. Néanmoins, son prix d'achat est très élevé et sa mise en œuvre par soudure est plus contraignante. Le second, que nous allons évoquer aujourd'hui, est le PER. Le PER signifie polyéthylène réticulé. Le PER fait partie de ce qu'on appelle les matériaux de synthèse. Comparativement au cuivre, il a un prix d'achat bien moins élevé et est plus facile à mettre en œuvre. Il est très flexible et peu sensible au calcaire et résistant à la corrosion. Les matériaux de synthèse sont naturellement perméables à l'oxygène et pour remédier à ce phénomène, certains tubes en PER sont équipés d'une barrière anti-oxygène. Cette barrière anti-oxygène va empêcher l'oxygène justement de pénétrer dans le tube et donc réduire la formation de boue dans l'installation. Contrairement au cuivre, le tube PER se dilate fortement et n'est pas destiné à être posé en apparent. Il est également possible d'utiliser du tube multicouche. Comme son nom l'indique, le tube multicouche est composé de différentes couches, dont une couche d'aluminium insérée entre deux couches de matière polymère. Il est tout à fait adapté au réseau de chauffage et d'eau sanitaire, en neuf comme en rénovation. Il reprend les avantages des tubes cuivre et PER, à savoir la résistance, l'esthétisme, une facilité de mise en œuvre, une faible sensibilité au calcaire et résistant à la corrosion. De plus, la couche d'aluminium empêche l'oxygène de pénétrer dans le tube. Son prix d'achat est plus élevé que les tubes en PER, mais moins élevé que les tubes cuivre. Enfin, le quatrième et dernier matériau est l'acier électrozingué. Il s'agit d'un acier pour lequel une fine couche de zinc est appliquée sur la face extérieure du tube pour la protéger de la corrosion et ainsi éviter qu'il ne rouille. Il est particulièrement rigide et moins coûteux que le cuivre, mais ne peut pas être utilisé en sanitaire.
Vous expliquez que l'acier est exclu du sanitaire. Est-ce que les autres matériaux peuvent s'utiliser dans toutes les situations?
Alors oui, effectivement, il est nécessaire d'avoir des certifications et des normes pour pouvoir commercialiser les tubes dans notre pays. Nous avons des organismes indépendants, tels que l'AFNOR par exemple, qui sont chargés de contrôler les tubes afin de pouvoir prétendre à être commercialisés sur le marché français. Par exemple, la NF545 pour les tubes PER et multicouche valide une durée de vie minimale sur les réseaux. La durée de vie minimale garantie à une certaine température et pression donnée est de 50 ans. Choisir un tube possédant cette certification est donc un premier gage de qualité pour le client. La certification NF545 indique également les classes d'utilisation possibles du tube. Deux exemples concrets. La classe 2 est la classe d'alimentation en eau chaude et froide sanitaire. Ou la classe 4 est la classe radiateur, basse température et chauffage par le sol. Un autre élément primordial nécessaire aux fabricants pour pouvoir vendre un tube pour un usage sanitaire, c'est l'ACS. L'ACS, qu'est-ce que c'est? L'ACS est une abréviation qui signifie attestation de conformité sanitaire. Elle est délivrée par des laboratoires spécialisés qui certifient que le tube est apte au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. A contrario, un tube en acier électrozingué n'est pas certifié ACS puisqu'il est susceptible de contaminer l'eau potable. C'est pour cela qu'il n'est pas utilisable pour des installations sanitaires. Il est important pour tout professionnel ou particulier bricoleur de choisir des produits certifiés. Produits certifiés qui vont garantir une longue durée de vie et surtout limiter les risques, notamment ceux liés à la contamination de l'eau.
En plus de ça, il faut respecter la réglementation en matière d'installation.
Oui, et je serais tenté de dire heureusement. Il n'est pas autorisé en France toutes les mises en œuvre possibles et imaginables. Les règles générales de plomberie sont dictées dans un DTU. Un DTU, c'est un document technique unifié qui résume les normes françaises à respecter et dicte les règles de calcul des installations, comme par exemple les diamètres intérieurs minimum des canalisations d'alimentation. Donc ainsi, pour une baignoire, le DTU indique qu'il faut un diamètre de tube minimum de 13 mm. Alors pourquoi 13 mm? Simplement, c'est pour avoir un débit minimum pour garantir un temps de remplissage de baignoire acceptable et ne pas mettre 5 heures pour pouvoir remplir sa baignoire. Les nouvelles règles professionnelles, éditées en mars 2022, reprennent, synthétisent et expliquent également l'ensemble des bonnes pratiques énoncées dans le DTU. La réglementation sanitaire est également un document primordial à respecter car il érige les règles définissant des températures maximales au point de puisage, donc pour éviter les brûlures, la stagnation d'eau et la prolifération des légionelles. Il est important de s'y plonger quand on apprend la plomberie, comme par exemple, contrairement à la croyance collective, un tube d'eau chaude doit être maintenu en température, au-delà de 3 litres et non de 3 mètres. Pour un tube de 16 en PER, le volume de 3 litres correspond à 22 mètres, donc inutile de boucler un tube de 3 mètres en DN16.
Lors de l'installation, les différentes sections de tubes doivent être raccordées et il existe là aussi plusieurs techniques. Pouvez-vous nous en parler ?
Effectivement, on parle de 4 techniques principales. La première technique dont je vais vous parler aujourd'hui est le raccord à souder. Le raccord à souder est destiné uniquement aux tubes cuivre et acier. Cette technique, classique et historique, prend plus de temps de mise en œuvre et plus onéreuse que les autres techniques de raccordement et apporte aussi plus de contraintes pour l'installateur. En effet, la technique de brasure doit être parfaitement maîtrisée pour que les raccords soient étanches. Du fait de l'utilisation de flammes, elle est plus dangereuse pour l'installateur et éventuellement nécessite un permis feu selon le type de bâtiment. Le second type de raccordement pour le PER et le multicouche est le raccordement par sertissage par glissement, également appelé raccordement de type axial. Il consiste à expandre, c'est-à-dire agrandir le tube à l'aide d'un outillage pour y insérer le raccord. Le fait d'évaser le tube pour y intégrer le raccord d'un même diamètre offre comme avantage le passage intégral du fluide et donc moins de perte de charge de réseau, et potentiellement l'utilisation d'un tube de diamètre inférieur. Les raccords à glissement sont considérés comme indémontables et peuvent être posés aussi bien en apparent qu'en incastré. Le quatrième type de raccord sont les raccords à compression. Ces raccords à compression offrent comme avantage une rapidité de mise en œuvre, puisqu'il s'agit d'un simple vissage à écrou sans outillage spécifique. L'inconvénient est que ces raccords à visser sont considérés comme démontables, c'est-à-dire que l'installation ou du moins le raccordement doit rester accessible. Chez Réo, nous utilisons ces deux dernières techniques, c'est-à-dire le raccordement par compression et le raccordement par glissement. Notre exclusivité est de proposer un même système de raccord par glissement, compatible aussi bien avec le PER que le multicouche.
Intéressant, cela veut dire que le professionnel limite son stockage d'accessoires et son investissement en outillage lorsqu'il travaille avec ces deux matériaux donc.
Alors tout à fait, le professionnel, s'il souhaite utiliser aussi bien les tubes Réo en multicouche qu'en PER, n'aura besoin que d'un seul jeu de raccord et un seul jeu de bagues.
Avant de finir, peut-être quelques préconisations générales à partager avec nous ?
Oui, effectivement, lorsque cela est possible, nous préconisons plutôt de choisir des matériaux de synthèse qui peuvent être encastrés dans les murs ou enrobés dans les parois. C'est beaucoup plus esthétique pour l'utilisateur final, car aucun tube en apparent ne gâche la déco et cela facilite grandement l'aménagement des pièces. On voit souvent des tubes apparents peints dans le cas de travaux de décoration ou de rénovation, mais il faut savoir que cela peut être un risque de contamination chimique de l'eau. Les matériaux de synthèse comportent aussi un avantage au niveau de la sécurité, puisque, comme nous l'avons dit, ces tubes sont soumis à des normes strictes qui garantissent la durée de vie et surtout l'hygiène dans l'installation. Il faut savoir que les tubes multicouches proposés par les différents fabricants n'ont pas tous la même épaisseur. C'est pour cela qu'ils sont homologués par système complet, c'est-à-dire homologués pour le tube plus les raccords, et qu'il ne faut pas combiner sur un même réseau des tubes multicouches et des raccords de différents fabricants. Chez Réo, par exemple, nous proposons des systèmes complets certifiés, donc c'est-à-dire que le tube plus le raccord, plus l'outillage, est certifié chez nous, vraiment chez Réo, pour garantir au client final des produits parfaitement compatibles. La dernière préconisation que nous pouvons donner, et non des moindres, c'est d'effectuer un test d'essai sous pression du réseau, quel que soit le tube, les raccords et l'installation, afin de vérifier son étanchéité. Ce test est de toute manière obligatoire et est rappelé et demandé dans les règles de l'art.
Merci Fabien pour cet échange très instructif sur les matériaux destinés aux réseaux d'hydrodistribution qui sont un élément clé d'un habitat pérenne et sécuritaire. Pour en savoir plus sur les matériaux de synthèse proposés par Réo, rendez-vous sur le site web de la marque www.reo.fr.